VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. On connaît désormais l'affiche des deux premiers quarts de finale. Ce sera Burkina, Tunisie et Sénégal, Cameroun. Au programme ce mardi en groupe C, deux matchs cruciaux, l'un à Oyem et l'autre à Port-Gentil. À Oyem, la Côte d'Ivoire championne en titre affronte le Maroc. Coup de projecteur sur le match avec Amine Mabrouk.
Tout à fait, c'est un match à quête double entre le tenant du titre et le Maroc. La Côte d'Ivoire qui reste sur deux matchs nuls a l'obligation de l'emporter face à une sélection marocaine retrouvée qui n'a, elle, besoin que d'un point. Les deux équipes ont leur destin en main. Côté ivoirien, à l'exception de Lamine Koné, Michel Dissouillet devrait bénéficier de tout son groupe ou pouvoir compter sur tout son groupe, alors que côté marocain, on ne déplore aucune blessure. Sur le plan mental, les Marocains ont un obstacle à franchir, n'ont jamais réussi à passer le premier tour depuis la CAN 2004, alors que les Ivoiriens ont pour habitude de jouer des premiers rôles dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, c'est une génération qui s'est gagnée. Côté marocain, c'est le syndrome de l'échec qu'il va falloir dépasser. Hervé Renard est venu avec cet objectif. Pourra-t-il réussir cette prouesse? Côté ivoirien, est-ce que Michel Dussuyer saura transcender ses troupes? Verdict tout à l'heure à 19h GMT. Depuis Oyem au Gabon, Amine Birouk pour VOA Afrique.
À Port-Gentil, RDC contre le Togo. Les Léopards congolais, leaders du groupe, jouent à l'aise face au dernier de ce groupe. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ah oui, puisqu'il leur suffit d'un nul au minimum ou au mieux d'une victoire pour se qualifier. Les Léopards qui, depuis le début de cette campagne dans le groupe C, chapeautent le groupe, sont leaders. Ils ont 4 points pour l'instant. Mais malgré tout, Flora Ibenge a dit et répété qu'ils doivent absolument chercher à gagner ce match pour éviter tout score piège. Ils doivent chercher à battre cette équipe du Togo pour éviter que derrière il y ait des complications et des calculs qui pourraient les mettre en ballottage défavorable. On attend voir ce que ça va donner. En tout cas, au moment où je vous parle, je suis au stade de Port-Gentil. Les équipes sont sur place en train d'essayer de travailler, de rendre cette pelouse la plus praticable possible afin que le spectacle n'en souffre pas. On verra bien ce que ça va donner d'ici 19h temps universel. Depuis le stade de Port-Gentil, ici au Gabon, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry. Au programme demain en groupe D à Oyem, le Mali face à l'Ouganda. Coup de projecteur sur les aigles maliens avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0-0, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour les quarts avec 6 points. Les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises Ougandaises. Une telle victoire améliorerait leur chance d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons, un match où les Égyptiens mettront toute leur force dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises Ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique en RDC, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, évacué ce mardi du pays à destination de Bruxelles pour se faire soigner, est un habitué des séjours en Belgique pour raisons médicales. Il a quitté Kinshasa aujourd'hui alors que son parti négocie avec la majorité soutenant le président Joseph Kabila un partage du pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle dans le pays. Le départ du vieil opposant, affaibli, pourrait compliquer ses négociations visant à trouver une sortie pacifique à la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son mandat, qui a expiré depuis le 20 décembre. Au Burundi, plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD, d'Alix d'Alexis Sindiwidje, aujourd'hui en exil, ont été libérés hier de la prison de Mpimba à Bujumbura par grâce présidentielle. Au total, 2500 prisonniers sont concernés par cette décision du président burundais. Le point à Bujumbura avec notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
La joie se lisait sur les filles, femmes et jeunes hommes qui venaient de passer presque 2 ans dans la principale prison de Bujumbura, Mpimba, dans les quartiers de Musaga au sud de la capitale. Certains avaient été arrêtés le 8 mars 2014 alors qu'ils étaient en réunion dans leur permanence nationale. Ce jeune homme, surnommé Moto, est parmi les 300 personnes libérées. Il ne cache pas sa joie, mais demande que la grâce présidentielle s'étende d'autres prisonniers qui sont plus de 10 000 dans les différentes geôles du Burundi.
Je suis très content de la grâce présidentielle qui vient de nous libérer, de nous pardonner. Nous étions innocents. Nous sommes très contents. Mais nous avons des frères qui ont été incarcérés pendant les manifestations d'avril 2015. On les a traités de rebelles qui ont attaqué des camps alors que ce n'est pas vrai.
13 prisons du Burundi qui ont une capacité d'accueil de plus de 4 000 détenus contenaient l'année 2016 une population pénitentiaire de presque 10 000 personnes, soit plus de la moitié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Gambie, l'ex-président gambien Yahya Jammeh sera autorisé à garder en exil sa collection de 13 automobiles de luxe qui doit être transportée par avion cargo en Guinée équatoriale. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Alifa Sala, un porte-parole du nouveau président Adama Barrow. Monsieur Sala a souligné qu'un accord avait été conclu en ce sens pour faciliter le départ de Yahya Jammeh du pays samedi dernier. Autre objectif, selon le porte-parole, réduire la possibilité d'aller et venir de l'ex-leader en Gambie pour récupérer ses biens. Au plan politique, une ancienne ministre du régime de Yahya Jammeh a été nommée vice-présidente de la Gambie par le président Adama Barrow. Ce dernier est encore au Sénégal voisin où il séjourne depuis le 15 janvier et la date de son retour au pays natal n'est pas encore fixée. Jean-Roger Bion.
Malgré le départ en exil de Yahya Jammeh samedi soir, qui a mis fin à 6 semaines d'une crise provoquée par son refus d'accepter les résultats de la présidentielle, la date du retour en Gambie du nouveau chef de l'État n'est toujours pas connue. Mais M. Barrow a commencé les consultations pour désigner son équipe et a nommé à la vice-présidence une responsable de sa coalition, Fatoumata Diallo Tambajang, a annoncé lundi son porte-parole Alifa Sala à la presse à Banjul. Militante des droits des femmes ayant notamment travaillé pour l'ONU, Mme Tambajang a été ministre de la Santé durant la présidence de Yahya Jammeh de 1994 à 2017. Elle est une des responsables de la coalition qui a soutenu la candidature d'Adama Barrow, élu le 1er décembre dernier. Fatoumata Diallo Tambajang succède à une autre femme, Aissatou Ndiaye Saïdi, qui était vice-présidente depuis 1997. Aucun calendrier n'était encore disponible sur les prochaines nominations, alors que selon le conseiller de M. Barrow, Maï Fati, les conditions de sécurité sont encore insuffisantes pour son retour.
Au Niger, sommet sur la sécurité, 3 pays participent, le Niger bien sûr, le Burkina Faso et le Mali. Les participants veulent renforcer la lutte contre les djihadistes. Par ailleurs, les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale Niamey sont en grève depuis hier pour une période de 5 jours. Les grévistes entendent par ce débrayage exiger le paiement de 6 mois d'arriéré de salaire. Le mouvement a commencé par un sit-in à l'hôtel de ville de Niamey. Reportage de notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa.
Les travailleurs des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur 1e mouvement de grève. Ali Gatti est le coordonnateur des 5 syndicats des travailleurs des municipalités de la capitale.
Tout le monde en a marre. Tout ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tout le monde est prêt. Parce que pour la mort, on n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. À la maison, on est des femmes. Devant nos femmes, nous aussi, nous sommes des femmes parce qu'un responsable d'une maison qui ne donne pas les frais de Kondemali aussi, il devient une femme.
Puisque leur autorité hiérarchique directe ne semble pas avoir de solution, certains sollicitent une implication à un niveau beaucoup plus élevé.
On voulait rappeler au président de la République, Mohamed Issoufou, qu'il pense à nous. Pitié, 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 pitié. 7 mois sans salaire, c'est pas 7 jours.
Cette situation-là est très difficile, est très très difficile. Si vraiment le président peut intervenir dans cette histoire-là, il n'a qu'à intervenir parce que on ne peut pas vivre et travailler pour l'État pendant 7 mois sans avoir le salaire.
Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.